On va aller retrouver Ursule Thériault tout de suite pour sa chronique. Bonjour Ursule.
Bonjour M. Saint-Pierre.
Ben, on va parler ce matin d'un sujet, que, comme on dit, qui est pas nécessairement un sujet là, dont tout le monde parle là, tu sais, autour d'une bière. C'est-à-dire la biomasse, son utilisation, sa petite histoire et où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Tu as plusieurs exemples à nous donner.
Ben, quelques exemples. Surtout, moi, ce qui m'a allumé pour que je puisse parler de ça ce matin, c'était vraiment l'article du journal Info Dimanche du 5 septembre où 747 000 $ avaient été accordés par le Fonds de rayonnement des régions aux conférences régionales de l'environnement. Fait que donc, je me dis, bon, c'est bien, parce que moi, j'étais heureuse d'entendre ça parce que c'est plusieurs années de travail qui ont été mis là-dessus. Et puis, quand on parle de ça, ça veut dire que les projets, dans le fond, les grands projets structurants ou de changement, ce qu'on voit, c'est que ça demande du temps. On peut vous parler de la traverse, du Gros Kakuna, puis de Bruno Gagnon tout à l'heure. On mentionnera pas le nombre d'années, ça trahirait mon âge, mais on sait que ça prend du temps, ça prend beaucoup d'années. Pour ce qui est de la biomasse, moi, je m'y intéresse depuis 2003. Donc, il y a eu une table de concertation pour valoriser la biomasse dans la MRC de Rivière-du-Loup. Puis autour de cette table-là, il y avait des grosses pointures. La ville de Rivière-du-Loup, le CLD, la SADC, la Coop Fédérée, les centres de transfert technologique comme Biopterre. Il y avait le Service canadien des forêts, le MRNF. Et puis, tous ces acteurs-là travaillaient justement pour valoriser, puis dans le fond, c'est de l'énergie alternative, hein, et puis on parle de développement durable. Moi, j'ai participé à des ateliers de travail avec le Service canadien des forêts dans diverses régions du Canada pour voir où est-ce que ça pourrait justement se développer. Mais si ce qui a déclenché, bien, dans toutes les grandes universités, ça se parlait également. Je vous parle de celle de New York, par exemple, celle d'Uppsala en Suède, puis celle de Montréal.
Oui, Ursule, avant qu'on aille trop loin, parce que là, on parle de biomasse comme si tout le monde savait ce que c'est. La biomasse, c'est d'utiliser de la matière qui autrement se perdrait en forêt. Par exemple, des suites à des coupes d'arbres et tout. En fait, tout ce qui peut devenir une matière qu'on pourrait brûler, chauffer par la suite.
Oui. Merci de faire la précision parce que je m'en ai justement. La biomasse, hein, ça a différentes catégories. On parle de la biomasse agricole, forestière, urbaine et celle provenant de la culture des végétaux à croissance rapide. Ça, c'était le sujet qu'on parlait le plus. Mais dans ces projets-là, entre autres, il y avait eu justement l'analyse puis la caractérisation de ces produits-là, notamment avec la biomasse urbaine. On était associé avec Conteneur KRT. Peut-être que Martin Willett pourrait en dire beaucoup plus. Mais l'Institut de recherche en développement et en agro-environnement avait fait une étude là-dessus. Et puis, quand on parle des scientifiques qui s'intéressent justement, quand on parle d'autonomie énergétique ou d'autonomie ou de changement là par rapport au chauffage, comme tu dis, le mazout, remplacement du mazout par. Il y a des projets qui se sont faits comme Amqui, par exemple, l'hôpital d'Amqui, pour eux autres, ils ont utilisé la biomasse, hein, les granules. Mais, tu vois, la biomasse provenant des végétaux à culture croissance rapide, comme le saule et le peuplier hybride, faisait partie des items pour sécuriser l'approvisionnement pour des projets de chaufferie, par exemple.
Ouais.
Il y a eu des projets pilotes, puis je vais te mentionner, entre autres, le plus important qu'on a réalisé au Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le MAPAC, c'est à Saint-Paul-de-la-Croix, pour justement la déprise agricole, la valorisation des terres en friche, pour pas les laisser justement se perdre. Et puis, ça s'est fait sur 3 ans, et avec ça, puis avec des projets menés aussi avec la ville de Rivière-du-Loup, on a démontré que la culture du saule était justement faisable et très productive ici sur nos types de sols.
Mm-hmm. Mais Ursule, est-ce que quand on parle d'utilisation de la biomasse, est-ce qu'on peut dire qu'on a suffisamment avancé au moment où on se parle pour dire que ce n'est plus nécessairement une source d'énergie très marginale?
Mais sans dire qu'elle est marginale, on sait que les tarifs électriques pour nous ici sont encore très bas. Et puis, tu sais, le projet justement qui est sous l'aile là, du Conseil régional d'environnement du Bas-Saint-Laurent, mais justement, il va servir à rapatrier. Les études ont été faites par rapport justement à comment ça peut être fait, les coûts, on pourrait sortir les tableaux, puis tu sais, un peu démystifier ça. Les scientifiques comme Michel Morin seraient bien placés pour l'expliquer. Et peut-être, tiens, c'est
Mais sauf que lui, il ne me parle plus, ça fait 10 ans. Ça fait qu'on, okay. On ne pourra pas avoir d'explication de sa part. Il me parle plus. Je n'existe plus depuis 10 ans. Mais, okay. mais continuons, Ursule, oui.
Oui. Sébastien Rioux, entre autres, pourrait-il l'énergie alternative en type d'émission? Parce que les analyses ont été faites que la biomasse, tant forestière que urbaine et tout ça, puis celle avec les végétaux comme le saule, mais en termes d'émissions, on dit qu'ils sont carboneux. Tu sais, le fait de les produire, les cultiver, les récolter, les chauffer, ben ça arrive à zéro. Les émissions qu'on fait en les chauffant sont captées parce que ça capte le CO2. Ces végétaux-là. Fait que donc, c'est carboneutre. Fait que donc, par rapport à l'émission de gaz à effet de serre, puis tout ça, ben, c'est bien pour l'environnement. Puis quand on parle de développement durable, et puis quand on parle des circuits courts, le projet initié à Saint-Paul-de-la-Croix sur 3 ans avec le MAPAC, c'était justement pour cultiver ça.
Nous, ici, Ursule, dans le KRTB, là, mettons sur une échelle de 1 à 10 par rapport à d'autres régions du Québec, parce que tu as l'air quand même assez au courant, là. Sur une échelle de 1 à 10, on est rendu où, nous autres, là, en termes de développement de cette voie qu'on nous présente comme une voie d'avenir, là?
Ben, on est rendu, je pense, à trouver les débouchés, justement, les réseaux de chaleur, la conversion par rapport aux manufacturiers qui, par exemple, qui sont au mazout, ne serait-ce que de remplacer les sources d'énergie du mazout avec la biomasse. Quand je te parle de plusieurs années de travail, c'est ça, la démonstration est faite. Mais là, je parlais justement à Patrick Morin, qui est directeur adjoint pour le Conseil régional de l'environnement de l'Est, du Bas-Saint-Laurent. Ben écoute, ça va servir justement à tout rapatrier les informations qui sont un peu partout, là, tu sais, qu'on a menées dans différentes régions.
Ouais.
Et puis au Québec également. Mais surtout au Bas-Saint-Laurent, il y en a, ils sont disponibles.
Je veux dire, dans le KRTB, là, ou si on rapetisse encore plus dans notre MRC, est-ce que c'est un sujet qui est encore d'actualité, qui bouillonne encore, ou est-ce que, bon, à part l'exemple de Saint-Paul-de-la-Croix puis quelques autres petits exemples ici et là, mettons qu'il n'y a pas trop de conseils municipaux qui passent du temps là-dessus, là?
Absolument. Ça, c'est un fait parce que même quand c'était très actif, c'est des sujets qui sont, je pense que, trop en avant. Tu sais, quand on dit on est en avance, les pionniers, je parlais justement avec Michel Rioux, le directeur de la pépinière de Saint-Modeste, qui est à la retraite maintenant. Il dit peut-être que ces changements-là, c'était trop vite, mais non, c'est pas vraiment pas à l'ordre du jour des conseils municipaux. Ça, c'est une évidence.
Ursule, peut-être une dernière question là-dessus. Parce que je me souviens que ça a été soulevé à un certain moment, puis c'est pas moi qui a amené ça, là. C'est arrivé dans la discussion, il y a peut-être 4-5 ans passés. C'est que la forêt, si on ne parle que de la forêt, là, on ne parlera pas de la biomasse agricole ou de la on va parler de la forêt. On disait que la forêt, pour se régénérer elle-même, a besoin de sa propre biomasse. Donc, si on enlève et on enlève encore, est-ce qu'on n'appauvrit pas le sol de nos forêts? La question avait été posée. Est-ce que c'est un débat qui est toujours là, ça, ou bien qui s'est éteint assez rapidement?
Ben moi, je pense que le débat est toujours là, puis les gens des groupements forestiers pourraient sûrement vous en parler, puis l'association forestière Bas-Laurentienne également. Mais justement, la culture des végétaux à croissance rapide venait un peu compenser pour la collecte qu'on diminuerait justement sur les sols forestiers. Ça, c'est, tu sais, je suis pas une compétente dans ces questions-là, Mais oui, autour des tables, ça se discutait. Les gens des groupements qui étaient assis à ces tables-là de travail, eh bien, en parlaient vraiment de ça. Et c'est vrai que la forêt, pour se régénérer, a besoin de ouais. sa propre biomasse.
Donc si on pompe de la biomasse de la forêt et qu'on appauvrit la forêt, on n'est pas dans un meilleur scénario. Hein? On peut prétendre que c'est une matière renouvelable, mais si on la prélève plus rapidement qu'elle se dépose, on finira peut-être par avoir des problèmes.
Oui, c'est pour ça que les plans de l'Association forestière Bas-Laurentienne dans la gestion de la forêt, justement, sont très bien faits. À mon avis, je peux me tromper, mais je pense que oui. Mais contre les projets de culture de végétaux à croissance rapide avec les peupliers et le saule, pour le Service canadien des forêts, ça devenait une alternative très sérieuse.
Ouais, mais en même temps, Ursule, quand on fait cette culture-là, que ce soit le saule osier ou le peuplier dont tu me parles, on fait pas ça partout, on fait ça dans des endroits ciblés. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que la récolte de cette biomasse-là fait qu'on en prélève moins en forêt, donc ça crée un équilibre. Est-ce que c'est ça ou j'ai rien compris?
Oui. Non, ça crée un équilibre, oui, mais ça fait aussi une source fiable d'approvisionnement, justement, pour éviter qu'on collecte à l'excès là, dans les forêts, ouais. la biomasse forestière, ouais. mais ça viendrait créer un équilibre. Puis ça viendrait dans les travaux qu'on a faits, c'était vraiment pour assurer la stabilité de l'approvisionnement. Mmh. Exemple, pour une petite usine à granules, puis on parlait de circuit court, hein, d'économie circulaire où dans une communauté X, c'est elle qui produit sa propre biomasse, si on parle de la biomasse urbaine forestière et des cultures à croissance rapide, ben tu sais, on venait comme assurer l'approvisionnement pour alimenter ces petites... mais par petits projets, c'est peut-être aussi ce que me disait Patrick Morin, et puis je parlais aussi avec Marie-Josée Hulotte, qui trouve que le projet aussi est intéressant, pour justement concentrer tout ce qu'il y a comme information et d'expertise qui est amassée. Là.
Donc, ça bouillonne encore. Il y a encore du monde qui travaille là-dessus.
Oui, il y a encore du monde qui travaille là-dessus, puis la preuve que, justement, ça prend du temps pour des projets structurants. Puis, ça m'amène peut-être à vous parler que quand il y a des gens qui s'occupent des projets puis qui les poussent, ben ça permet d'avancer. Le fabuleux mix cette année, je sais pas si vous avez entendu mais du 23 au 25 octobre, ben justement, ils vont s'arrêter aux questions.
Comment t'appelles ça?
Le fabuleux mix. Tapez ça sur Google, le fabuleux mix 2020, qui est justement va parler des questions d'autonomie alimentaire et énergétique cette année.
OK.
Fait que tu sais, ça démontre que le sujet est toujours d'actualité.
Faudra se reprendre éventuellement depuis de temps. Merci, Ursule.
Oui, parfait. Merci, bye Daniel. Bye. Bonne journée à tous.
Au revoir. Ursule Thériault qui revient en onde aux 2 semaines.